Plus loin, au verset 6, on voit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan était au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan lui répondit « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert ?» Ensuite, après cette discussion entre Dieu et Satan, il y a tout le passage où Job perd ses biens. Il perd ses biens, il perd ses serviteurs meurent, ses biens sont détruits, il perd même ses enfants. Et lorsqu'il perd ses enfants, il se lève, il déchire son manteau, il se rase la tête. Puis il se jette par terre, il se prosterne devant Dieu. Il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Au chapitre 2, l'histoire se répète. De nouveau, il y a cette rencontre entre Satan et Dieu, où de nouveau, Dieu s'exclame devant son serviteur Job, et où de nouveau, Satan réplique. Après cela, Job perd sa santé. Et quand arrive cette perte supplémentaire, Job, il n'en peut plus. Il est au sens-dessus-dessous. Et il s'écroule chez lui. Ses amis viennent le voir. Ses amis ne le reconnaissent plus, tellement il est dans un mauvais état. Ses amis vont passer 7 jours avec lui à pleurer. Et au bout de ces 7 jours, Job, il n'en peut plus. Il s'écrit « Maudit soit le jour de ma naissance ». Quand on regarde le livre de Job, dès le début, nous trouvons 2 personnages et 2 éléments. Nous trouvons Dieu et Satan, le défenseur et l'accusateur. Nous découvrons la lutte entre Dieu et Satan pour posséder le cœur de l'homme. Nous y voyons comment Dieu est enthousiaste face à l'amour de Job. Il le dit à Satan. Il dit « As-tu remarqué mon serviteur ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et nous voyons Satan critiquer, mine de rien. Il ne critique pas le service ni la piété de Job. Il ne critique pas sa justice. Il ne l'accuse pas de crime ou de faute, ni de méfaits. Il sait que ce serait peine perdue face à Dieu. Mais Satan va accuser Job d'avoir une arrière-pensée. Est-ce pour rien que Job te sert ? Pour rien. Ces 2 mots sont la clé du livre de Job. Ils ont permis à Satan de semer le doute dans la vie de Job, dans sa pensée, dans celle de ses amis, dans toute sa vie, sur toute sa vie. Nous voyons que Job était un homme intègre et juste et droit, qu'il craignait Dieu et qu'il se détournait du mal. Pourtant, malgré cette droiture, cette intégrité, malgré cette crainte de Job, malgré l'amour qu'il portait à Dieu et la fierté dont Dieu faisait preuve à son égard, les épreuves se sont accumulées sur la vie de Job, au point qu'il a tout perdu. Il a perdu ses troupeaux, ses serviteurs, tous ont été tués. Il a perdu ses brebis et d'autres serviteurs encore par la foudre venue du ciel. Il a perdu ses enfants qui sont morts dans l'écroulement de leur maison. En dehors de sa femme, Job avait tout perdu, ses biens, ses terres, ses troupeaux, et même ses enfants. Il avait de quoi déchirer son manteau, se raser la tête. C'était le signe d'un grand deuil. Pourtant, après ça, il a encore dû subir la maladie. Job était frappé d'un ulcère malin. Tout son corps, de la tête aux pieds, était recouvert de cet ulcère. Des cloques purulentes, partout. C'était tellement douloureux qu'il essayait de s'asseoir sur des braises pour soulager la douleur. Mais rien n'y faisait. Il était dans un tel état que même ses amis ne le reconnaissaient pas. Durant 7 jours, ils ont pris le deuil avec lui. Le monde entier est peuplé de Job, éprouvé dans leur affection, dans leur bien, dans leur chair. Ils se débattent, luttent, ils s'interrogent. J'ai fait partie de ceci il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis là devant vous, je peux marcher, je peux me déplacer, je peux parler, je peux respirer. Je me tiens debout. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a quelques années, pas très lointaines, fin 2012, début 2013, comme ça, j'ai vécu une épreuve qui fut terrible pour moi. Une épreuve qui m'a couché par terre, comme Job, qui m'a laissé dans un tel état que je ne pouvais même plus me lever, pratiquement plus. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus respirer ni dormir sans l'aide d'un appareil. J'étais là, vivante, si on me regardait d'un point de vue humain. Pourtant, c'était comme si la vie ne coulait plus en moi. J'avais l'impression d'avoir été absorbée de l'intérieur par une force inconnue, par une chose inconnue. Comme si j'avais tout donné, comme si on m'avait tout pris. Je me sentais vide, complètement vidée. Je croyais ne jamais me relever de cette épreuve. Elle était trop forte, elle était trop dure. J'ai cru que ma vie était terminée à ce moment-là. Et c'est dans cette période-là que j'ai fait connaissance avec le livre de Job, que j'ai rencontré Job. Je me sentais en symbiose avec lui. Ma souffrance avait été la sienne était devenue la mienne. Alors que j'étais là, couchée sur le tapis de ma chambre, transpercée par la souffrance, je comprenais pourquoi Job avait déchiré son manteau, pourquoi il s'était rasé la tête. Je comprenais pourquoi ses amis ne l'avaient pas reconnu quand ils étaient revenus, pourquoi ils avaient mis la poussière sur leur tête, afin de disparaître du regard des autres. Je comprenais comment la souffrance avait pu transformer son être, son physique, ses réactions. Je comprenais pourquoi Job avait pu maudire le jour de sa naissance. J'en étais arrivée là aussi. Je ne voulais plus qu'on m'appelle Sylvie. Je ne voulais plus qu'on me regarde. Je ne voulais plus qu'on me parle. Je voulais disparaître. Moi aussi. Je maudissais le jour de ma naissance. Mais comment avais-je pu en arriver là? J'ai quelques images pour vous. Je suis née dans le centre de la France à la fin des années 60. C'est moi. Dans une famille plutôt hétéroclite, je suis la 6e fille d'une fratrie de 7 enfants. Je suis la 6e fille de 7 enfants, je suis là. Il y a toutes mes grandes sœurs, mon petit frère et ma maman. La photo suivante, ma maman était couturière de métier. Elle était descendante d'une famille de tisserands, ceux qui tissent le tissu. Une famille qui vivait dans la région depuis plusieurs générations, qui était tisserand de père en fille, de père en fils, et les filles étaient couturières. C'était une famille catholique peu pratiquante, qui avait vécu de grandes souffrances. J'ai pas connu mes grands-parents maternels. Mon papa était mineur de fond. Il travaillait dans les mines de charbon, qu'on appelle l'or noir. Ses frères y travaillaient, mes cousins y ont travaillé. Chez nous, les hommes étaient mineurs de fond. Sa maman, ma grand-mère paternelle, était issue d'une famille bourgeoise et catholique de l'Est de la France. Son papa, mon grand-père, était un soldat de l'armée russe qui était venu, durant la Première Guerre mondiale, aider la France à se libérer des Allemands. J'ai grandi dans une cité minière entre le stade Jouffroy-Guichard, où jouait l'AS Saint-Étienne, les Verts, à l'époque, et les Crassiers, des mines de charbon. C'était mon terrain de jeu, mes terrains de jeu. Avant de marcher, je savais déjà grimper les murs du stade pour aller voir les Verts s'entraîner. J'ai appris à courir très vite parce que le gardien avait deux dogues allemands qui étaient plus grands que nous. Alors il fallait courir très vite pour pouvoir bondir sur le mur et arriver sur le mur avant qu'ils nous aient chopé les mollets. Sur les Crassiers que vous voyez là, j'habitais juste au pied. On a tout essayé avec mes amis. On a fait de la luge en hiver. Les luges sont jamais arrivées en bas. Nous non plus. Mais on n'avait plus de dents non plus. On a essayé aussi d'y faire du patin à roulettes. Les patins à roulettes n'ont pas touché le sol, mais nous si. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, plutôt insouciante. J'avais de grands rêves. Je posais sur la vie un regard curieux, vif, intéressé. Je disais, lorsque je serai grande, j'irai parcourir les grandes plaines de Russie, le Grand Nord, l'Australie, le Canada. J'irai parler aux gens. J'avais des choses à leur dire. J'étais timide, hyper timide, d'une timidité maladive, mais je voulais aller parler aux gens. J'étais assoiffée de justice, de vérité, de paix, d'amour. Je voulais parcourir le monde afin d'aller partager toutes ces choses. J'étais persuadée que je rencontrerais le prince charmant, l'homme de ma vie, qu'avec lui j'aurais plein d'enfants, une maison pleine de joie, pleine de rire, et que nous ferions ces voyages ensemble pour aller parler de l'amour, de la vérité. J'en étais convaincue. Et mes fidèles auditeurs, mon papa, ma grand-mère paternelle, mes amis, en étaient convaincus autant que moi. Je leur faisais déjà des prédications à l'époque, même pas sur la Bible, comme je vous l'ai fait maintenant, mais sur plein d'autres choses. Hélas, ce rêve a commencé de se briser au début de mon adolescence, sans même que je m'en aperçoive. J'ai perdu ma grand-mère, elle est décédée un matin, vaincue par la vieillesse et par la maladie. Avec elle s'éteignirent les grandes balades dans la campagne, nos visites dans les églises à écouter chanter le chœur, à aller prier, nos discussions interminables sur nos vies, la sienne qui se terminait, la mienne qui commençait. Elle m'avait enseigné l'amour, la joie, le partage, la foi, la vie. Quelques années plus tard, mon père s'éteignit à son tour, vaincu par le cancer. Il m'avait enseigné l'amour de mon prochain, la patience, le don de soi, le partage. Il m'avait appris à ouvrir la porte à l'étranger. Il m'avait parlé de Dieu à sa façon. Il était mineur de fond et dans les mines de charbon, quand arrive le grisou, le gaz qui fait exploser les mines. Ils ont des animaux, des canaris entre autres. Mon père était responsable des canaris. Et quand arrive le grisou, les canaris se plaquent au grillage. C'est le signal. Et mon père me disait, tu sais, quand on est au fond du trou et qu'arrive le grisou, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de nationalité. On est tous frères et on n'a plus qu'une pensée, c'est sauver notre frère avant de se sauver soi-même. Il me parlait de Dieu à sa façon. Après ces deux pertes, mon chagrin fut tel que je me suis fâchée contre Dieu. Et le jour de l'enterrement de mon père dans l'église, j'ai déclaré à Dieu que que dorénavant, je ferai comme Thomas. Je croirai en ce que je verrai. Je ne mesurais pas le poids de mes paroles. Dans les années qui ont suivi, j'ai vécu tout ce qui était possible et inimaginable d'épreuves. Je voulais voir pour croire. Eh bien, j'ai vu. J'ai connu l'amour et le mariage, mais j'ai aussi connu la jalousie face à notre bonheur. La jalousie qui va jusqu'à pousser l'être qui la possède dans des chemins dignes d'une série noire. J'ai connu la magie, qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche, celle qui détruit tout sur son passage. Je l'ai connue au point que j'y ai perdu mon premier mari et mon premier enfant. Quelques années après, un soir de 1991, alors que l'épreuve était trop forte pour moi, je me suis de nouveau adressée à Dieu. Dans ma chambre, j'ai demandé à Dieu que si c'était vrai ce que m'avaient dit mon père et ma grand-mère et qu'il existait, eh bien qu'il fallait qu'il me le prouve et qu'il fallait qu'il me le prouve tout de suite. Il l'a fait, immédiatement. Dans ma chambre, il s'est révélé. Seul Dieu peut traverser les murs et vous amener la lumière comme il l'a fait. Il s'est révélé à moi d'une manière miraculeuse, mais d'une manière claire, nette. Je savais que c'était lui. Je me croyais sauvée. Je croyais avoir tout vu. Et je croyais avoir connu le pire. Mais je devais découvrir que le pire restait à venir. Je croyais encore à l'amour. Je croyais encore au bonheur. Ma fille qui est là présente était déjà née à cette période-là. Et je me relançais dans la vie conjugale. J'ai connu la violence physique d'un conjoint qui m'a maltraitée à un point qu'on ne peut même pas imaginer. 2 années où j'étais enfermée, où je subissais ces violences, où je ne pouvais pas m'enfuir parce que quand je sortais de la maison, c'était uniquement accompagné de lui. 2 années d'enfer dont j'ai pu m'évader un soir plus violent que les autres, où il était à coups de poing en train de me tuer, et où Dieu a réveillé ma fille qui dormait dans sa chambre et qui l'a fait sortir de sa chambre. Quand elle est arrivée, cet homme s'est comme figé face à cet enfant. Et pendant les quelques secondes où il est resté figé, la porte était ouverte. J'ai juste eu le temps de prendre ma fille, ma Bible, mes clés et de m'enfuir. Dans les années qui ont suivi, j'ai fait d'autres rencontres, d'autres mariages. J'ai connu la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, verbale, psychique. J'ai connu le mépris et le désamour, les trahisons en tout genre, l'adultère. J'ai connu les mensonges et le rejet d'un mari qui, pour paraître bien aux yeux des autres, s'était inventé toute une vie, des origines, un savoir, des connaissances et même un appel dans lequel tout était faux, tout était mensonge. Lorsque ces mensonges sont venus les uns après les autres à la lumière de Dieu, il a préféré fuir et abandonner notre mariage plutôt que se repentir. J'ai connu les méandres de l'alcoolisme dans lequel j'essayais de noyer ma souffrance. J'ai croisé la mort de près. Je l'ai croisé enfant à plusieurs reprises. J'ai failli tomber. D'un 5e étage, j'ai été rattrapée par une main mystérieuse. J'ai failli me noyer. Je l'ai connu à l'âge adulte, lorsqu'une nuit, un homme s'est infiltré chez nous et que pour avoir ce qu'il voulait, ce qu'il était venu chercher, il m'a posé un pistolet sur la tempe. J'ai croisé la mort dans une voiture folle lancée contre un camion par un chauffeur suicidaire qui avait décidé de mourir et de nous emmener, mes enfants et moi, avec lui. Et puis je l'ai croisé par la maladie. Un jour où les médecins m'ont annoncé que j'avais un cancer foudroyant, qui me restait quelques mois, qu'il fallait que je prépare mes affaires et mes enfants. Mon fils, le dernier, avait 5 ans. Raphaël, que vous connaissez, avait 5 ans. J'ai vécu tout ceci jusqu'à ce jour de 2013, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis écroulée. J'avais tout perdu. Ma maison, mon commerce, mes animaux. J'avais été sans toit. Nous avons vécu une période avec mes enfants où, durant presque une année, nous avions 300 euros par mois pour vivre. Avec ça, je devais payer les factures, nourrir mes enfants, payer le loyer. Heureusement, une famille nous avait hébergés dans un appartement. Tout s'était écroulé. J'avais perdu mes biens, mon insouciance, ma joie de vivre, ma santé. Je ne faisais plus de luge sur les crassiers. Je ne grimpais plus au mur du stade. J'avais tout perdu. À Job, il ne lui restait plus que sa femme et sa foi. À moi, il ne me restait plus que mes enfants et ma foi. Comme pour Job, des amis sont venus me voir. Les premiers sont arrivés. Ceux qui n'ont pas prêté attention à moi. Ils sont venus me parler, me conseiller. Ils sont venus me dire, mais il faut que tu te relèves. Il faut que tu ailles de l'avant. Tu dois te bouger. Ils m'ont expliqué ce que je devais faire. Ils venaient me donner des leçons de morale. Tous savaient ce qui était bon pour moi. Je ne pouvais plus. J'étais à terre. J'étais cassée, brisée, vidée. J'étais vaincue. Et puis, sont arrivés les autres. Ceux qui ont commencé par garder le silence. Ceux qui ont pleuré avec moi. Ceux qui m'ont tenu la main. Ceux qui ont mis du baume sur mes blessures. Ceux qui m'ont dit, mais tu ne dois rien, il ne faut pas. Ceux qui ont dit, c'est pas grave si tu ne peux pas lire ta Bible, si tu ne peux pas prier, on le fera pour toi. Ceux qui m'ont dit, nous te porterons le temps qu'il faudra. Ceux qui m'ont dit, tant pis si tu ne peux pas regarder à demain, ni après-demain. L'important, c'est aujourd'hui. L'important, c'est tout de suite. C'est maintenant. Alors, je me suis contentée du maintenant. Et avec eux, j'ai marché dans le maintenant. L'heure prochaine, tant pis, on ne la connaît pas, on ne sait pas qui elle est. Mais l'important, c'est maintenant. Il y a eu ceux qui sont venus chaque midi manger avec moi pour être sûr que je mange une fois par jour. Il y a eu ceux qui, jour et nuit, ont été disponibles au téléphone pour m'écouter parler ou pour m'écouter pleurer. Avec tout ceci, il y avait Dieu. Dieu, notre secours, était là, présent, avec chacun d'entre eux. Ce deuil dura 8 mois. 8 mois où je fus couché sur le tapis de ma chambre avec le livre de Job et avec ses quelques amis qui veillaient, priaient, prenaient soin de moi. 8 mois où je rencontrais Dieu comme jamais je l'avais vu auparavant, comme jamais je ne l'avais connu. Je le rencontrais comme un père, comme un ami, comme un confident. Je le rencontrais comme un époux, cet époux dont nous parle la Bible. Je ressentais la douceur de sa présence, la douceur de son amour. Je réalisais combien Dieu était présent dans ma vie depuis toujours, combien il m'avait protégé, gardé. Je réalisais qu'avant même que mes parents m'aient créé, lui déjà m'avait voulu. Qu'avant même que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, déjà il me connaissait. Qu'il m'avait donné mon prénom. Je réalisais, je comprenais enfin combien j'étais aimée de lui. Combien j'étais importante et combien je comptais pour lui. Je réalisais que depuis ma naissance, il avait toujours été là. Je comprenais enfin ce que Job voulait dire quand il a écrit au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. Enfin, je rencontrais pleinement Dieu. » Une fois que j'ai vécu pleinement cette rencontre, j'ai compris aussi autre chose. Dieu m'a ramené au début du livre de Job, au tout premier chapitre, et à cette rencontre entre lui et Satan. Je n'y avais pas prêté attention. Et là, je me suis rendu compte que Satan était dans ma vie, comme il avait été dans celle de Job. Il avait posé le doute sur ma vie, comme il l'avait fait sur celle de Job. Il avait semé le doute, les pertes, le désespoir. Satan avait demandé ma vie depuis longtemps. J'avais 5 ans lorsque j'ai failli mourir pour la première fois. Satan avait demandé ma vie, déjà. Il avait tout essayé. Il m'avait tout pris. Heureusement, Dieu était là. Il avait veillé. Il veillait encore. Et il veille. Et même quand ce jour de l'enterrement de mon père dans l'église, je me suis fâchée contre lui, il est resté, toujours. Jamais il a abandonné. Durant ces 8 mois où j'étais au fond du trou, cette rencontre m'a permis de m'enraciner davantage encore en lui. Quand on regarde le livre de Job de cette manière-là, quand on fait cette lecture-là et qu'on demande vraiment à le comprendre, on se rend compte qu'il est redoutable autant qu'il est merveilleux. C'est un livre qui nous parle de perte, qui nous parle de deuil, mais c'est aussi un livre qui nous parle d'amour. Avec ce livre-là, il n'y a pas de milieu. Où l'on en sort vainqueur, où l'on en sort vaincu, où l'on en sort affermi ou affaibli, où l'on en sort croyant, où l'on en sort incrédule. Mais jamais nous ne sortons indifférents du livre de Job. L'histoire de Job nous permet de découvrir ou de redécouvrir notre propre histoire. Elle nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Elle nous permet de nous regarder, de regarder notre propre itinéraire, notre foi, notre confiance en Dieu, mais aussi notre incrédulité. L'histoire de Job nous permet de nous remettre en question, d'oser regarder sur quel point nous sommes dans la soumission ou dans la révolte, dans la confiance ou dans l'incrédulité. Elle nous permet de cheminer dans notre propre histoire, de réfléchir à qu'est-ce que nous allons en faire, qu'est-ce que nous avons fait avant et qu'est-ce que nous allons faire après. Qu'est-ce que nous voulons faire de la suite de notre vie? L'histoire de Job nous permet de réfléchir à notre façon de voir Dieu, à notre relation avec lui, à réfléchir à quelle est la raison ou quelles sont les raisons pour lesquelles nous le servons ou pour lesquelles nous voulons le servir. Est-ce pour rien? Est-ce pour la gloire? Pour un statut social? Pour la richesse? Est-ce pour faire bien? Est-ce pour exister? Ou est-ce pour rien que nous voulons servir Dieu? En vivant ces épreuves, Job s'est trouvé ballotté entre la paix et la détresse, entre la détresse et la confiance. Du fond de son désespoir, Job s'est retrouvé face à lui-même, à ses doutes, à ses manques. Durant cette épreuve qui m'a couché par terre pendant 8 mois, je me suis retrouvé face à mon histoire, face à moi-même. Je courais toujours en avant. Là, j'ai dû m'arrêter. J'ai été obligée de m'arrêter. J'ai été obligée d'écouter Dieu. Car à travers nos souffrances, à travers nos épreuves, il nous parle plus que jamais. J'ai dû écouter Dieu et j'ai dû m'interroger. J'ai dû reconnaître mes torts et mes erreurs. J'ai dû accepter que j'avais pris des mauvais chemins. J'ai dû reconnaître que si on m'avait fait du mal, j'en avais aussi fait. Que j'avais fait des mauvais choix. Des choix qui nous ont mis en danger, mes enfants et moi. J'ai dû reconnaître que je ne les avais pas suffisamment protégés. J'ai dû demander pardon, mais pas un pardon superficiel, un véritable pardon aux gens que j'avais blessés. J'ai dû pardonner à d'autres. J'ai découvert combien le pardon est difficile. Souvent, il est donné à la légère. Il est pris à la légère. Il est reçu à la légère. Alors qu'il est un acte profond. J'ai découvert que je n'avais pas pardonné à certains, qu'à d'autres c'était en cours. J'ai accepté que certaines personnes ne pouvaient pas me pardonner, que peut-être elles ne me pardonneraient jamais. J'ai dû reconnaître mon insoumission ou ma soumission vis-à-vis de Dieu. J'ai dû reconnaître que ma foi était faussée par une mauvaise image de qui est Dieu. Qu'elle était faussée par ce que j'attendais de lui. J'attendais qu'il me donne, sans forcément en donner trop. Comme Job, j'ai dû choisir. Comme lui, j'ai choisi de me prosterner devant Dieu, de m'humilier devant lui. J'ai fait le choix de m'attacher à lui et d'ancrer mes racines toujours plus profondément. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, comme on le voit dans Job 35, Dieu m'a retiré de la détresse. Il m'a mis au large. J'ai avancé sur les chemins dans lesquels Dieu voulait et veut me conduire. Aujourd'hui, je suis en formation. Je suis étudiante en 3e année à la HET Pro, anciennement Institut Emmaüs. Je suis ici, ça c'est ma classe. Je suis stagiaire ici. J'ai commencé mon stage à la période de la fête du 21 mai. Je suis appelée dans les églises pour prêcher. Aujourd'hui, Dieu est en train de me relever. Le chemin n'est pas terminé. Je suis encore en reconstruction. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de me rétablir. Je suis en train de sortir de ce deuil. Et vous envoyez chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les bienfaits, autant que moi. Aujourd'hui, si je vous ai partagé tout ceci, ce n'est pas pour rendre témoignage de moi-même, de ce que j'ai pu faire, de ce que je peux faire ou pas. Ce n'est pas pour m'apitoyer sur moi ou sur mon vécu. Mon but aujourd'hui est de vous rendre témoignage de qui est celui qui m'a appelé. De qui est celui qui vous appelle ou qui vous a appelé et qui vous appelle encore. Avec la conversion, on peut avoir l'impression d'avoir trouvé notre place. On pense être à l'endroit où on doit être. Mais on oublie qu'en fait, le but de Dieu est de nous déplacer pour nous amener là où il veut que nous soyons. Si lorsque je me suis convertie, il m'avait dit que je serais aujourd'hui devant vous en train de parler, je ne l'aurais jamais cru. J'avais des problèmes de langage et de parole qui m'auraient jamais fait prendre un micro. Parler aux foules sans micro, ça allait, mais avec, non. Alors, si nous voulons réellement servir Dieu, si nous voulons réellement marcher à la suite du Christ, comme Job, nous serons ballottés. de la paix à la détresse, mais de la détresse à la confiance. Aussi, je veux vous encourager. Vous encourager à vous interroger sur quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez servir Dieu. À ne plus voir Dieu comme un accessoire qu'on utilise quand on en a besoin, parce que le reste du temps, on est assez grand, on peut se débrouiller tout seul. Mais à le voir réellement comme un père, comme un frère, comme un ami, comme un époux, comme celui qui jamais ne faillit. Celui qui est à vos côtés toujours, jour et nuit, à chaque instant. La Bible nous dit que Dieu a des projets de vie pour nous. Il en a pour moi. Il en a pour vous. Et ces projets, il ne peut pas les réaliser si vous ne vous attachez pas totalement en lui. Tant que certaines de nos racines restent encore à l'extérieur, il ne peut pas réaliser ses projets. Aussi, je vous invite et je vous encourage à rentrer dans une relation plus profonde avec Dieu, à le laisser vous balloter afin que vos racines puissent s'ancrer profondément et qu'il puisse vous conduire sur le chemin qu'il a pour vous. Afin que vous aussi, vous puissiez, comme Job, attacher vos pas aux siens, garder sa voix et ne plus vous en détourner. Job n'a pas abandonné les commandements des lèvres de Dieu. Et vous l'avez vu dans la suite de son livre, Dieu l'a relevé. Dieu a honoré le fait qu'il ne s'est pas détourné de lui, même au plus profond de la détresse. Lorsque nous acceptons de nous attacher à ses pas, de lui faire confiance, lorsque nous acceptons que nos vies soient chamboulées, retournées, transformées, nous y perdons des choses, des personnes, des idées qui nous sont chères, qui nous sont même précieuses. Mais il y a pire que de tout perdre. Ce qui est pire, c'est de laisser Satan garder des racines qui vous appartiennent, qui appartiennent à Dieu. De le laisser prendre la moindre petite place dans votre vie et de faire que vous resterez juste à la porte du plan que Dieu a pour vous. Rester à la porte ou voir le plan devant vous et ne pas pouvoir y rentrer, ne pas pouvoir rentrer dans la vie que Dieu a pour vous, dans les projets qu'il a pour vous, est bien pire que de tout perdre. Amen.